Et c'est notre rendez-vous quotidien avec l'actualité, le journal de la rédaction. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Nicolas.
En Haïti, comment la situation pourrait-elle être plus chaotique encore?
Hier, un chef de gang a carrément menacé le pays d'une guerre civile. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui. Avec quelle chance de parvenir à rétablir l'ordre rapidement? On posera la question dès le début de ce journal. Avec notre invité aujourd'hui, Vincent Michelot, vice-président chargé des relations internationales à l'ENS Lyon, on parlera élection américaine au lendemain du Super Tuesday, en l'occurrence du très probable match retour Biden-Trump le 5 novembre prochain. L'actualité également en France, où quand Bruno Le Maire déclare la guerre ce matin à la complexité administrative pour les entreprises, le ministre de l'économie veut simplifier le code du commerce. Enfin, on détaillera les résultats de cette nouvelle étude de l'INSEE qui vient rappeler le poids, toujours et encore, des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Son nom, à lui seul, suffit à terroriser toute la population haïtienne. Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue pour ses victimes présumées brûlées vives, menace à présent d'une guerre civile sanglante qui conduira à un génocide si le Premier ministre contesté refuse de démissionner. Cet avertissement, lancé hier par le chef d'une coalition des gangs parmi les plus puissants de la capitale, ne vient en réalité que paraphait l'acte de décès de ce petit pays pauvre des Caraïbes, devenu une entité chaotique ingouvernable et que plus rien ne saurait décrire à présent sans le lexique des armes, du sang et des cadavres. Alors depuis dimanche dernier, la capitale, Port-au-Prince, est sous état d'urgence et couvre-feu. Et face à cette nouvelle escalade de la violence, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion aujourd'hui même, sans grand espoir toutefois de parvenir à y restaurer rapidement un semblant même de démocratie. Seule certitude, Valérie Crova, tout s'est donc accéléré ces derniers jours.
Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a profité de l'absence d'Ariel Henry, parti la semaine dernière, à Nairobi, signer un accord pour l'envoi de policiers kényans en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies. Cet ancien policier de 46 ans, qui a travaillé dans une unité d'élite chargée de la lutte anti-gang, a pris la tête d'une coalition de 9 bandes armées baptisée la famille G9 et ses alliés. Jeudi dernier, dans un appel sur les réseaux sociaux, il avait lancé la bataille pour renverser le Premier ministre et son gouvernement. Ariel Henry aurait dû quitter ses fonctions en février dernier. À la suite de cet appel, les gangs ont pris d'assaut deux prisons importantes de la capitale haïtienne, dont le pénitencier national de Port-au-Prince. Plusieurs milliers de détenus ont été libérés. Simultanément, des attaques ont été menées contre l'académie de police et plusieurs commissariats de Port-au-Prince. Les gangs ont également essayé de prendre le contrôle de l'aéroport international Toussaint Louverture. Cette explosion de violence a conduit les autorités à déclarer l'état d'urgence et à instaurer un couvre-feu nocturne. Quant au Premier ministre Ariel Henry, il ne peut plus rentrer en Haïti. Son avion privé s'est posé hier soir à Porto Rico après s'être vu refuser un atterrissage en République dominicaine voisine d'Haïti.
5 mois de combats acharnés entre l'armée israélienne et le Hamas ont plongé la bande de Gaza dans une crise humanitaire désastreuse que les discussions sans fin entre belligérants et médiateurs ne parviennent toujours pas à stopper. Les discussions se poursuivent aujourd'hui encore au Caire. Le plan discuté reste toujours le même. Il prévoit une trêve de 6 semaines qui permettra la libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël, de même qu'une augmentation de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé et dévasté. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas annonce ce matin un nouveau bilan de 30 717 morts.
Aux États-Unis, comme attendu, le Super Tuesday organisé hier sera venu confirmer ce que tous les sondages promettent déjà depuis des mois à chacun des deux favoris à la course à la présidentielle de novembre prochain.
Oui, un nouveau duel, Joe Biden-Donald Trump. Côté démocrate, tout d'abord, l'actuel président qui ne fait face à aucune opposition sérieuse autre que lui-même a remporté hier tous les états en jeu pour son parti, hormis une des fait, disons, anecdotique, concédé à un illustre inconnu dans les îles Samoa. Et puis côté républicain, l'ex-président a lui aussi raflé quasiment tous les états en jeu, à l'exception toutefois du Vermont, cet état peu peuplé frontalier du Canada, un bien maigre lot de consolation pour sa principale rivale Nikki Haley, la seule encore à se poser comme la candidate de la normalité face au chaos Trump. Alors avant de commenter ces résultats avec notre invité, notons que dès hier, Donald Trump a commencé à lisser son discours en appelant désormais à l'unité du pays. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Donald Trump, dont le regard est à présent plus que jamais donc fixement tourné vers le 5 novembre, jour de l'élection.
Oui, comme si nous étions déjà à la veille du scrutin, comme si sa concurrente, Nikki Haley, n'existait plus. Donald Trump ne l'a d'ailleurs pas cité une seule fois hier soir dans son discours de victoire, comme si les affaires judiciaires ne pouvaient entraver sa marche vers la Maison-Blanche. Bref, pour Donald Trump, la primaire est déjà de l'histoire ancienne. Le récit de son combat avec Nikki Haley n'a que trop duré. Il appelle maintenant son parti à se mettre en ordre de marche. « Nous voulons être unis », dit-il, « et nous allons l'être très rapidement. » Mais l'unité, ça ne se décrète pas, prévient sa rivale Nikki Haley, qui va se retirer de la course de manière imminente, selon le Wall Street Journal. Elle alerte sur le grand nombre d'électeurs républicains qui expriment de profondes inquiétudes vis-à-vis de Donald Trump, presque un testament politique. Allusion à la tonalité toujours plus radicale choisie par l'ancien président. Il promet à sa base une revanche, évoque ses ennemis comme de la vermine. « En 2016, j'étais votre voix, désormais je suis votre guerrier, je suis votre justice. » Ce sont les mots choisis par Donald Trump pour se lancer dans la course à l'investiture cette fois-ci. Avec une soif de vengeance envers ceux par qui il estime avoir été trahi, comme William Barr, son ministre de la Justice, ou Mark Milley, son ex-chef d'état-major des armées. Alors cette rage affichée peut-elle effrayer certains électeurs conservateurs, une frange modérée que Joe Biden lui tente de courtiser. Dans ses discours, il prend soin de ne jamais mettre dans le même sac tous les républicains. Il dénonce seulement les MAGA Republicans, MAGA l'acronyme de Make America Great Again, soit le slogan des Trumpistes. Les autres sont les bienvenus.
Merci Frédéric Seize. Et toujours pour continuer d'évoquer donc ce Super Tuesday, invité à présent de la rédaction Vincent Michelot, chercheur et vice-président chargé des relations internationales à l'ENS Lyon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
La première constatation peut-être à l'issue de cette journée qui habituellement constitue un moment très fort de la vie politique américaine. Cette année, elle vient surtout entériner l'absence d'enjeux autour de ces deux primaires.
Oui, absolument, il n'y avait aucun enjeu et même la victoire de Nikki Haley dans le Vermont est totalement anecdotique. L'écart entre les deux candidats dans tous les États qui comptaient vraiment, le Texas ou la Californie, est énorme. On a des écarts de 60 à 70 points et donc on a deux machines lancées vers l'élection du 5 novembre, Trump et Biden, comme il était prévu depuis fort longtemps.
Alors, côté démocrate, on va dire que l'affaire semble entendue. Côté républicain, est-ce qu'il existe encore une voie possible pour l'opposition à Donald Trump? Notamment, je pense à certaines zones urbaines convoitées et où sa domination est nettement moins spectaculaire que dans les zones rurales.
Oui. Clairement, la candidature de Trump a des faiblesses, notamment auprès des électeurs républicains modérés, mais ces faiblesses sont largement en dessous de l'enthousiasme que montrent ces électeurs, enthousiasme qui est beaucoup plus bas chez les électeurs démocrates pour Biden. D'autre part, l'élection ne se jouera pas au niveau national, mais dans 6-7 États au plus. Et dans chacun de ces 6 ou 7 États qu'on appelle les États swings, les swing states, ce seront de tout petits créneaux ou segments de l'électorat qui feront la différence. Ça peut être les jeunes, ça peut être les Américains d'origine arabe, ça peut être les républicains modérés, ça peut être les chrétiens, mais ça peut aussi être des électeurs mobilisés autour de la question de l'avortement, une question qui a montré son potentiel électoral lors des derniers scrutins, notamment en 2022.
Ce matin, le Wall Street Journal annonce que Nikki Haley va se retirer des primaires républicaines. Ça veut dire que même les ennuis judiciaires de Donald Trump n'étaient pas suffisants pour la convaincre de continuer à s'imposer comme un plan B.
Bah, il faut rappeler deux choses. D'une part, Donald Trump n'a jamais été condamné pour le moment. S'il l'était, cela changerait potentiellement la donne, mais de manière très marginale. Et d'autre part, pour une très grande partie des électeurs de Trump, chaque condamnation ou inculpation est en quelque sorte un badge d'honneur et le c'est sur la base justement de ces apparitions devant les tribunaux que Trump se présente comme un martyr persécuté par le gouvernement démocrate.
Si Donald Trump l'emportait en novembre prochain, il arriverait à l'évidence mieux préparé à la tête de l'État qu'il ne l'était lors de son premier mandat. Est-ce que cela signifie qu'il constitue aussi une menace plus sérieuse aujourd'hui pour la démocratie américaine que lors de sa première élection ?
Il est beaucoup mieux préparé. D'ailleurs, ça se voit dans la manière dont il a purgé le parti républicain, la manière dont il s'est organisé dans chacun des États où il y avait des primaires pour favoriser le scrutin à son endroit, et par toute une série de documents qui circulent sur la manière dont il entreprendrait ses 100 premiers jours. Trump est beaucoup plus menaçant, puisque beaucoup plus expérimenté en 2024 qu'il ne l'était en 2016.
Une dernière question. Jeudi soir, Joe Biden va prononcer son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, probablement d'ailleurs sous les huées des Trumpistes. Jusqu'à quel point ce rendez-vous essentiel pourrait ou non constituer un moment fort de cette campagne ?
Toutes les apparitions publiques de Joe Biden sont maintenant importantes. D'abord, c'est triste, mais toutes ces apparitions sont des tests cognitifs, en quelque sorte, pour démontrer qu'il a encore la vigueur intellectuelle et la vigueur cognitive qui lui permettrait de faire un nouveau mandat. D'autre part, il a été jusqu'à présent très protégé très à l'abri de la presse et du regard public. Et maintenant, il faut qu'il se lance dans la course et qu'il s'ouvre, quitte à prendre des risques, mais sinon il ne pourra pas rattraper le retard qu'il a actuellement dans les sondages.
C'est bien noté. Merci Vincent Michelot, vice-président, je le rappelle, chargé des relations internationales à l'ENS Lyon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Et on reste aux États-Unis, Thomas, où plusieurs banques parmi les plus importantes du pays et même du monde ont décidé d'abandonner un projet de normes environnementales qui existe depuis plus de 20 ans, au grand dam des groupes climatiques qui, aussitôt, ont qualifié la nouvelle de lâche et choquante.
Oui, les principes dits de l'Équateur sont aujourd'hui un ensemble de normes qui, bien que sans force exécutoire, constituent malgré tout un cadre de base pour faire face aux risques environnementaux. Or, quatre banques, en effet, Citi, Bank of America, JP Morgan et Wells Fargo, viennent de quitter le groupe des institutions signataires de ces principes. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'impact de ce retrait est encore difficile à évaluer dès lors que les banques en question font déjà partie des plus grands bailleurs de fonds du pétrole, du gaz, du charbon dans le monde. Toujours est-il que c'est là le dernier exemple en date, en réalité, Marie, de l'abandon de plus en plus fréquent par de grandes sociétés de services financiers d'initiatives environnementales.
Oui, alors 128 banques et institutions financières adhèrent toujours à ces principes de l'Équateur, très novateurs à l'époque. En 2003, on ne parlait pas de finances durables. Ils ont été remaniés plusieurs fois depuis, mais ils n'ont jamais été normatifs. Alors, pourquoi les quitter ? Les quatre banques américaines ne se justifient pas, mais leurs porte-parole ont assuré qu'elles s'y intéresseraient toujours de l'extérieur. Ce qui explique en réalité ce désengagement, c'est la pression politique des États américains dirigés par les républicains qui, depuis 2 ans, ont lancé une guerre contre les critères ESG, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance, et au-delà, contre toutes les formes d'engagement progressiste et non financier que peuvent prendre les entreprises. Cette guerre a des effets très concrets. En janvier, le Texas a interdit à la Barclays de participer aux émissions de dette de l'État sous prétexte que la banque, ayant pour objectif de réduire les émissions carbone de son portefeuille d'investissement, elle était coupable, je cite, de boycotter les combustibles fossiles. Quant aux alliances, type principe de l'Équateur ou d'autres qui ont été créées en marge des COP dernièrement, les républicains les jugent potentiellement contraires aux lois antitrust. L'an dernier, donc, la Net Zero Alliance a connu ainsi des défections en série. Vanguard, le deuxième plus gros gestionnaire de fonds américains, mais aussi des assureurs européens comme Score, AXA et Allianz. Ce reflux des engagements des institutions financières va au-delà du retrait de telle ou telle alliance. Dernier exemple en date, Banque Off America a levé les interdictions qu'elle s'était fixées sur les projets charbon. JP Morgan a modifié ses règles pour mesurer l'impact environnemental de ces projets. Les effets sont donc aussi très concrets.
Merci Marie Vienneau.
L'annonce de nouvelles baisses d'impôts à destination des ménages, malgré une économie à la peine, suffira-t-elle à redorer l'image d'un parti conservateur britannique abîmé par 14 années de pouvoir?
D'ici une heure, le ministre des Finances devrait détailler au Parlement les contours du prochain budget de printemps. Or, non seulement ces annonces nourrissent les craintes de voir le gouvernement coupé dans les services publics, justice, police, santé, mais surtout, rien ne dit qu'elles feront une différence majeure dans les sondages. Déjà, la première baisse de cotisation à l'automne dernier n'avait pas démontré la capacité des Tories aujourd'hui à faire bouger les lignes électorales à quelques mois des prochaines législatives où l'opposition travailliste est donnée largement favorite. Et puis au Pérou, Alberto Otarola a préféré jeter l'éponge aussitôt ouverte l'enquête pour soupçon de trafic d'influence à la suite de la diffusion d'enregistrements audio compromettant. Le Premier ministre a annoncé hier sa démission.
Vous écoutez France Culture, il est 12h46 et c'est la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Le déficit public pour l'année 2023 en France devrait s'établir significativement au-delà de l'objectif fixé par le gouvernement à 4,9%. Déclaration signée ce matin Bruno Le Maire, de quoi justifier selon le ministre de l'économie l'annonce le mois dernier de quelques 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État. Autre annonce, toujours dans les colonnes du journal Le Monde, du locataire de Bercy, la reprise en main définitive par l'État de l'assurance chômage, pour laquelle une nouvelle réforme est envisagée afin d'en durcir encore les droits. Enfin, Bruno Le Maire, toujours lui, il déclare la guerre à la complexité administrative pour les entreprises afin, je cite, d'alléger la charge mentale qui pèse sur les entrepreneurs. François Chagnaud, bonjour.
Bonjour.
En clair, le ministre de l'économie dit ici vouloir simplifier le code du commerce. Pour quelle raison, François?
Parce que les entrepreneurs français disent crouler sous les normes et la paperasse. Le code du commerce a en effet quadruplé de volume en 20 ans. Et c'est donc pour cela que Bruno Le Maire veut le réduire de moitié d'ici 2027 et supprimer tous les formulaires administratifs qu'on appelle les CERFA d'ici 2030. Selon le ministre de l'économie, cette complexité a un coût vertigineux en emploi comme en heures travaillées. C'est ce que vit Christelle Comparin au quotidien. Elle dirige une entreprise du bâtiment et préside la Confédération des petites et moyennes entreprises du Lot-et-Garonne.
C'est ma collaboratrice qui s'occupe de ça et honnêtement, elle doit y passer un cinquième de son temps. Elle pourrait le consacrer au commerce, au développement de l'entreprise, à la communication. Ça nous empêche de nous développer, quoi.
Et dans une lettre ouverte en novembre dernier, le MEDEF et la CPME estimaient que réduire les démarches administratives d'un quart permettrait aux petites entreprises d'économiser jusqu'à 15 milliards d'euros par an. Alors cela permettrait également de redonner du souffle aux petits commerces indépendants. Espère Francis Palombi, il est le président de la Confédération des commerçants de France.
Par exemple, une succession, c'est un parcours du combattant. Des documents à fournir, des pièces justificatives, des rappels et des rappels par rapport à différentes organisations du commerce. Il faut être initié, ça dissuade. Créer un commerce, c'est la croix et la bannière. Ça ne donne pas envie, vraiment.
Voilà, Bruno Le Maire dit que son administration aura recours à l'intelligence artificielle pour mener à bien ce chantier de simplification, sans préciser pour autant comment l'IA sera utilisée.
Merci François Chagnaud.
Globalement, le revenu salarial moyen des femmes dans le privé était inférieur de près d'un quart à 23,5% à celui des hommes en 2022.
C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE publiée à l'avant-veille de la Journée internationale des droits des femmes. Alors, parce qu'il faut bien chercher quelques raisons de se rassurer, cet écart s'est tout de même réduit depuis les années 90. Il n'en reste pas moins que d'autres indices encore témoignent de cette inégalité. Les femmes sont par exemple peu représentées parmi les hauts salaires. Comment expliquer un tel écart? Élément de réponse avec Vera Lou de Reed.
Selon cette étude qui se penche sur le secteur privé, à travail égal, les femmes gagnent 15% de moins que les hommes sur l'année 2022. Les optimistes argueront que cet écart était au-delà de 22% il y a 30 ans, mais ce chiffre révèle que les inégalités de salaire persistent. L'étude met également en évidence la différence entre la petite entreprise et la grande. La différence de salaire homme-femme est de 8% dans les entreprises de moins de 10 personnes et elle est de plus du double dans celles de plus de 5000 salariés. Les femmes cadres sont celles qui pâtissent le plus de cette inégalité, davantage que les ouvrières ou encore que celles exerçant des professions intermédiaires. Toujours à temps de travail équivalent, l'écart est assez faible chez les jeunes et important chez les quinquagénaires. Face à ces données, l'économiste Séverine Lemierre souligne la très forte présence de femmes dans des emplois à temps partiel et le manque de progrès les concernant. Les femmes apparaissent également davantage en inactivité, rappelle-t-elle, et elles occupent moins de hauts postes. L'économiste révèle malgré tout des progrès dans les rémunérations des dirigeantes, notamment grâce à la loi française sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration et les instances de gouvernance.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore couvert avec quelques pluies persistantes sur le Jura, la Champagne-Ardenne et la Bourgogne ainsi que sur la façade atlantique partout ailleurs. En revanche, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.